La préparation des élections provinciales, c'est aussi la mise sous pli du matériel électoral. Il est en cours depuis hier à la mairie de Nouméa. 300 millions supplémentaires pour le budget de Païta. Les élus communaux ont adopté hier une décision modificative. G7 à Évian, dîner à Versailles avec Donald Trump. Emmanuel Macron vante le bilan de la dernière grande séquence diplomatique de son double quinquennat. L'accord signé avec l'Iran n'est qu'un point d'étape. Les parties ont maintenant 60 jours pour trouver un accord définitif sur le nucléaire iranien. Et puis du football dans la page de sport avec la suite de la Coupe du Monde. C'était ce matin le début des deuxièmes matchs de la phase de poule. Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. Une fois les principaux titres développés, on se retrouvera à midi pour le magazine Transparence. Bonjour Elisabeth Noir.
Bonjour Jean-François.
Et votre invité sera aujourd'hui Juanito Wamitan.
Juanito Wamitan, tête de liste Kanaki pour tous dans la province sud de la liste du FLNKS. S'il sera l'invité du magazine Transparence et nous l'interrogerons sur la composition de sa liste, sur son programme, sur ses motivations. On se retrouve d'ici une petite demi-heure, juste après votre journal, en compagnie de Juanito Wamitan.
Et rendez-vous aussi à 16h45 pour le Club Politique Radio Rythme Bleu.
Au menu, sans surprise, les élections provinciales, la campagne en tout cas, avec les nombreuses interviews et déclarations des derniers jours, et notamment le débat de la province sud, mercredi sur RRB. Nous reviendrons également sur les déclarations de Jean-Luc Mélenchon, qui parle beaucoup de la Nouvelle-Calédonie, et puis sur l'affaire de la CCAT avec l'interview du procureur de la République. On se retrouve à partir de 16h45 pour ce Club Politique de Radio Rythme Bleu.
RRB, élections provinciales 2026.
Et la mise sous pli a commencé à la mairie de Nouméa. C'est un moment incontournable dans la préparation d'un scrutin. Il s'agit de mettre sous enveloppe les fiches de propagande de chaque liste. Depuis 7h ce matin, 120 personnes âgées de 18 à 55 ans sont réunies dans la salle d'honneur de l'hôtel de ville de Nouméa. Ils ont été recrutés par l'école de la réussite et répartis par table de 6. Le haut commissaire Jacques Billan leur a rendu visite.
C'est important puisque cette mise sous pli a vocation à transmettre à tous les électeurs les professions de foi, les bulletins de vote des candidats. Et c'est donc une opération essentielle pour garantir leur bord d'information. C'est aussi une opération industrielle puisque nous avons pour mission de mettre sous enveloppe 3 500 000 documents. Et pour ce faire, nous avons mobiliser beaucoup de monde, vous le voyez, l'école de la réussite qui fournit les encadrants, 120 metteurs sous pli, ce sont des Calédoniennes et des Calédoniens en situation d'insertion qui sont mobilisés, donc au total 150 personnes. Je rajoute bien évidemment les équipes du Haut Commissariat qui sont là pour superviser et coordonner cette opération de mise sous pli.
Des jeunes qui sont donc installés à différentes tables, 6 par 6, et qui ont déjà trouvé leur rythme de travail depuis l'ouverture des portes.
Moi, je suis encadrant. Il y en a 18, propagande, pour la sud. Et là, en ce moment, on est en train de répartir, partager, pour éviter justement qu'on en mêle. Voilà. Quand il y a une bonne cohésion d'équipe, ça avance avec de la joie et de la bonne humeur.
On fait de la mise sous pli. On prend les propagandes pour mettre dans les enveloppes, on scotche et on les sur la table et c'est l'OPT qui met dans les cajons. La rangée d'ici, on fait la commune. Nous, on est sur Dimbia, là.
Et comment ça se passe depuis ce matin?
Ça va, ça va. On a un peu mal au dos, on ne peut pas s'asseoir parce que c'est rapide et efficace, mais c'est bon.
Nous, on fait des provinces nord. On est bien organisé. Il y a des autres qui rangent les propagandes et moi, j'en fais dans l'enveloppe. Et puis, il y en a l'autre collègue qui scotche les termes.
On est en train de remplir les enveloppes et tout. Il y a une qui scotche et il y a eux qui nous passent les papiers pour mettre dans l'enveloppe aussi.
Voilà, les 120 personnes qui sont donc mobilisées jusqu'à mardi prochain pour que toutes les enveloppes soient envoyées dans les 3 provinces. Une quinzaine d'agents de l'OPT est également chargée de récupérer et de conditionner les enveloppes avant leur distribution. Les provinciales, toujours, et noter que l'État s'organise pour faire face à la menace d'ingérence numérique étrangère en période électorale. Les services du Premier ministre et le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité intérieure annoncent reconduire et renforcer le RCPE, le réseau de coordination et de protection des élections. Ce réseau, composé d'administrations et d'autorités indépendantes compétentes en matière électorale, effectuera des points de situation sur la menace d'ingérence numérique étrangère pesant sur le scrutin. Il proposera le cas échéant des mesures de réponse. C'est un réseau qui avait été mis en place pendant pendant la période électorale des municipales. Et puis l'actualité de la campagne, c'est aussi ce rendez-vous à la fois pour la liste loyaliste Rassemblement Fort et Uni de Sonia Backès. Déplacement pour présenter les grands axes de son programme sur le thème « Bien vivre en brousse ». Les colistiers se sont notamment déplacés sur une parcelle agricole. Ils comptent améliorer la transformation agroalimentaire pour augmenter de 25% l'autosuffisance alimentaire en 2030 et faire baisser le coût de la vie. Les loyalistes et le Rassemblement veulent aussi faciliter l'installation de jeunes agriculteurs en les accompagnant davantage, nous a dit Livaï Roy.
Aujourd'hui, on sait que la moyenne d'âge des agriculteurs, c'est 62 ans. On veut réduire cette moyenne d'âge, notamment en installant les jeunes agriculteurs, en créant une pépinière des jeunes agriculteurs. C'est de les installer, de les accompagner au mieux, c'est-à-dire sur le conseil, sur l'écoulement des produits, sur aussi l'accompagnement mécanique, et ainsi que sur le marché directement, notamment en parlant d'export. Aujourd'hui, on est sur une parcelle de 20 hectares de squash. C'est une filière encadrée, c'est une filière prioritaire aussi parce qu'il y a un marché énorme à l'extérieur. Et grâce à ça, on voit bien l'augmentation, notamment des agriculteurs de Nouvelle-Calédonie par rapport au marché étroit du maraîchage, avec moins de consommation, moins de pouvoir d'achat des Calédoniens. C'est pour ça qu'on pousse notamment dans notre programme aussi à l'accompagnement des agriculteurs envers ces filières encadrées, c'est-à-dire le maïs, le squash, et ainsi que ces autres filières que si on a besoin sur la filière viande, les agneaux, le mouton, parce qu'il faut aussi développer la Nouvelle-Calédonie pour que la brousse est réellement doit redevenir ce garde-manger de la Nouvelle-Calédonie.
Livaï Roy qui est donc sur la liste loyaliste et rassemblement pour la campagne provinciale. Cette liste veut aussi développer un pôle santé en brousse pour regrouper tous les services, mais aussi un foyer des étudiants broussards à l'image de ce qui se fait pour les îles. La campagne électorale toujours, et on va terminer cette page spéciale Nicolas Legrand avec quelques rendez-vous à signaler.
Oui, tout d'abord en province sud, cette liste, les loyalistes et le rassemblement Fort et Uni, conduite par Sonia Backès, qui organise une réunion publique ce soir à 18h à Ploumes. Le babicard de la liste Nous Réunis de Philippe Dunoyer sera aujourd'hui à Dimbéa, notamment de 15h à 16h sur le parking Corail. La journée se terminera par une réunion publique au Colisée de Bouraille à 19h. La liste Un autre monde est possible de Mila Koulotoukoumouli sera à Païta aujourd'hui pour une réunion publique à 18h au Montmou. Il y a deux adresses. Deux réunions publiques pour la liste Une province pour tous de Wallace Cotra, toutes les deux à 18h. L'une à la maison de la jeunesse de Dimbéa, l'autre à la tribu de Bangou à Païta. Deux réunions publiques également aujourd'hui pour la liste Unie pour le pays de Louis Mapou. La première à partir de 17h à la salle socio culturel de Boulou Paris, puis au Colisée de Bouraille à 17h. Ce sera donc le samedi 20 juin. La liste Faire Pays de Robert Cacoué sera à 18h30 à la Maison de la Jeunesse de Dimbéa. Quant à la liste France-Calédonie, une patrie d'Alain Descombelles, elle organise ce soir à l'hippodrome Henri Millard de Nouméa une réunion publique à 18h. La liste Pour une Calédonie française d'Arnold Leck organise quant à elle une réunion publique à 18h à la Maison des Communautés du Mont d'Or. Et puis en province nord, on signalera que la liste Agissons ensemble pour le Nord, conduite par Vanessa Wagkapo, sera aujourd'hui à Ouégoua.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est donc lors de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec notre question du jour. Approuvez-vous la décision du SMTU d'assurer un service minimum exceptionnel le dimanche 28 juin en faisant circuler les bus Taneo dans Nouméa et son agglomération le jour des élections provinciales? Si vous approuvez cette décision, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à la question d'hier est 57% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS trouvent normal et opportun que le Congrès de la Nouvelle-Calédonie continue à se réunir à moins de 10 jours des provinciales. Ils sont 43% à trouver que ce n'est pas normal. Il est 11h39, la première pause de ce journal. Dans un instant, le reste de l'actualité en Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Des conseils concernant les placements, l'épargne, les SCPI ou encore la retraite? Caplif, votre expert calédonien en gestion de patrimoine, vous accompagne avec des solutions personnalisées. Caplif, depuis 35 ans à vos côtés. Et ce n'est que le début. Contactez Caplif au 28 30 00. RIAS 170 052, ORIAS 13103.
Des galeries en terre sur vos murs? Ce sont des termites de sol. Stop! Ne touchez à rien, on sait Formula 4D. Plus d'infos sur formula4d.com. À vos côtés depuis 40 ans.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Baudin.
La suite de l'actualité en Nouvelle-Calédonie avec d'abord les faits divers et la police nationale communique sur une interpellation de deux individus. Ils avaient pris la fuite après avoir cambriolé un domicile à Nouméa dans la nuit du 15 juin à bord du véhicule volé. Ils ont d'abord tenté d'échapper aux forces de l'ordre et finissent par percuter un fourgon de police. Leur course se termine dans un abribus et la voiture a pris feu. Un des agents des forces d'ordre a été légèrement blessé lors de l'opération. Les deux hommes ont pu être interpellés et placés en garde à vue. Ils ont reconnu les faits. L'un d'entre eux a déjà été présenté à l'autorité judiciaire. Les élus de Païta réunis hier soir en conseil municipal, ils ont examiné la trentaine de points à l'ordre du jour et notamment, ils ont adopté, Charlotte Coulson, une décision modificative du budget de la commune.
Les élus y ont ajouté un peu plus de 300 millions de francs dégagés grâce à des ajustements de comptes mais aussi des dotations de l'État, de la province sud et de la Nouvelle-Calédonie. Ils serviront ces 300 millions de francs essentiellement pour des dépenses de fonctionnement comme l'entretien des routes, des bas-côtés, l'éclairage public notamment. En plus de cette décision modificative du budget, les élus ont voté trois autorisations de programme. Il s'agit là de projets que la commune entend mener à partir de 2027 et sur au moins deux années. Antoine Romain, le maire de Païta.
Pourquoi on les a prises? Parce qu'elles correspondent à des dossiers qu'on a déposés auprès des services de l'État dans le cadre de la deuxième vague du plan de relance. Alors il s'agit principalement de la rénovation du cœur de ville pour 124 millions de francs. C'est un besoin qu'on a depuis les émeutes de 2024. Il y a également un projet qui est très important, qui est celui de la rénovation et de la remise au niveau des infrastructures de la Reine du Sud pour pratiquement 400 millions de francs. Et puis il y a un autre projet qui, lui, tourne autour de 220 millions, qui est la réfection de la route dite de Gadji, rue Bernanos, qui est une route sur laquelle il n'y a pas eu de travaux pratiquement depuis 40 ans. Et on profitera également de ces travaux de requalification de la voirie pour y refaire les réseaux électriques au travers de notre participation au SIVM et avec l'aide du financeur qui sera Enercal.
Et notez que c'est aujourd'hui le dernier jour pour retirer à la mairie de Païta vos cartes d'électeurs pour les provinciales du 28 juin. Les guichets seront ouverts jusqu'à 14h30. À ce sujet, la commune organise le regroupement des bureaux de vote en 7 lieux. C'est un de plus que pour les municipales, nous dit Antoine Romain.
Nous avons le souci de rendre plus facile le travail pour l'administré. Donc, ce que nous avons décidé, c'est de réouvrir le bureau de la Tamois qui se situe à l'école Jean-Ounou-Cotin pour les bureaux 13, 14 et 19. Précédemment, dans les dernières années, ces bureaux avaient été concentrés sur l'école Martinet de la Tontouta. Donc aujourd'hui, on aura un bureau à Tontouta, qui ne change pas, qui serait le bureau pour les gens de Tontouta. Nous réouvrons les bureaux 13, 14 et 19 à l'école Jean-Ounou-Cotin. Et pour le reste, c'est-à-dire pour le sud de la commune, nous gardons les mêmes sites de vote que pour les élections municipales, avec le bureau centralisateur 1 et 2 qui sont à la Reine du Sud. Et on garde les mêmes bureaux sur les autres écoles dans lesquelles ils sont ouverts, l'école Patrice-Jean, le doc socioculturel et l'école Robert Abel.
Et notez qu'il sera toujours possible pour les électeurs de récupérer leur carte électorale directement le jour du vote. Par ailleurs, elle n'est pas indispensable pour exercer votre droit de citoyen.
Les employés du Petit Chose seront en grève la semaine prochaine. Un préavis a été déposé pour la période allant du 26 au 29 juin. Ils demandent aux élus du Congrès d'examiner les textes qui permettent de poursuivre le dossier du Petit Chose 3, Nicolas.
Oui, des décisions politiques attendues par la Sudil, évidemment, mais aussi par le constructeur du navire. Il s'agit de la mise en place de la défiscalisation locale et de la garantie du prêt par la Nouvelle-Calédonie. Le gouvernement a acté le principe tout en estimant que le montage financier était particulièrement fragile et a émis d'ailleurs un avis défavorable. Si le Congrès ne vote pas à son tour ces deux textes d'ici la fin de la mandature, le 28 juin, alors le chantier naval reverra son devis vraisemblablement à la hausse, comme il l'a déjà fait en mars dernier, avec une augmentation de 5% du devis, et pourrait aussi décaler le lancement de la construction pour privilégier un autre client. Édouard Castin, le directeur général de la Sudil, espère que les choses pourront se débloquer la semaine prochaine.
La menace de grève inquiète beaucoup au niveau du gouvernement et de l'État. Ils ont prévu des rencontres avec les salariés, voir s'il y a encore une possibilité de faire des séances la semaine prochaine, parce que si c'était possible, on pourrait très bien faire passer les textes la semaine prochaine.
Pour donner une garantie et de
voilà,
de
et nous, ça nous permettrait de contacter le chantier et puis de maintenir les prix qu'on a jusqu'à présent. Tout est prêt, hein. Il y a vraiment deux textes à passer. Le texte sur la défiscalisation locale, il ne concerne pas que le Petit Chose. C'est un texte balai où il y a beaucoup d'éléments dedans. Et pour la défiscalisation locale, il concerne le transport maritime de passagers, l'agriculture, je crois que c'est important aussi, et l'hébergement des personnes âgées. Donc c'est pas un texte dédié au Petit Chose, c'est un texte général qui est important pour la Calédonie et la garantie de l'État. Je rappelle aussi que on est dans un montage qui est assez classique pour du transport de passagers en Calédonie.
Et quoi qu'il en soit, entre la crise du secteur aérien, de la desserte maritime, avec l'émergence notamment des transporteurs privés, les futurs élus devront se saisir du dossier selon Édouard Castin.
Il faut absolument que les nouveaux élus se saisissent du dossier très rapidement. Il manque en Calédonie une vision globale du transport et même la mobilité, on appelle ça maintenant, on ne parle plus de transport, c'est la mobilité, ça part du vélo, des voitures, des bus, des bateaux, des avions. Malheureusement, c'est un dossier qui n'a jamais été mené à terme. On en parle, j'en entends parler depuis 15 ans. Oui, il faut le faire en parallèle, mais il faut quand même que nous, on ait ce projet qui soit enclenché, parce qu'autrement, on va une catastrophe. La catastrophe, ça serait l'arrêt du Betticho 2, et puis plus de moyens, plus d'avions, plus de bateaux. Ça n'empêche pas, en parallèle, que la nouvelle mandature devra saisir de ce sujet de la mobilité pour le développer au niveau pays, et ça n'empêche pas que le nouveau bateau qu'on prévoit pourra s'inclure dans ce schéma avec potentiellement d'autres concurrents. On n'est pas du tout contre le privé ni la concurrence, simplement il y a des urgences nécessaires qu'il faut absolument combler tout de suite.
Et une bonne nouvelle, en revanche, les prix des billets devraient diminuer au cours des prochaines semaines en raison de la baisse des cours du pétrole liée à l'accord de paix signé donc entre les États-Unis et l'Iran. Une interview d'Edouard Castin, le directeur général de la SUDIL, à retrouver sur notre site internet rrb.nc.
Une nouvelle pause dans ce journal et on se retrouve dans un instant pour évoquer toute l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Elles sont là. Les Nike Air Force One viennent de débarquer chez Ozone Sport au prix de 12 500 francs. Oui, vous avez bien entendu. À seulement 12 500 francs. Retrouvez-nous au centre-ville de Nouméa. Ozone Sport, votre revendeur officiel Nike.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1 500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite de votre journal, l'actualité en métropole et dans le monde, avec Jean-François Bodin.
G7 à Évian, dîner à Versailles avec Donald Trump, qui a signé un accord avec l'Iran pour mettre fin au conflit au Moyen-Orient. Emmanuel Macron vient de vivre la dernière grande séquence diplomatique de son double quinquennat. Elle lui permet de soigner le bilan de son action diplomatique. Arthur Delaborde pour Europe 1.
Pas de mise en scène orchestrée sous les ordres du château de Versailles. Emmanuel Macron assure que la signature de l'accord avec l'Iran par Donald Trump était spontanée.
Ça s'est fait de manière assez spontanée. Il y a eu des allers-retours entre la partie iranienne et la partie américaine. Ça s'est finalisé dans les dernières heures de ce G7. En tout cas, il était bon que ça n'attende pas, que ça puisse être signé dans ces termes et qu'un nouveau moment commence.
Et même si les Européens n'ont pas participé aux négociations, le président va jusqu'à parler d'un accord commun à mettre au crédit du G7.
C'est un accord commun et c'est une bonne chose et ça permet de mettre tout cela aussi dans le cadre de ce G7 qui a permis quoi au fond ? Que la coopération internationale reprenne.
Une manière pour Emmanuel Macron de défendre sa lecture du sommet, celle d'un G7 qui a démontré que les grandes puissances pouvaient encore se retrouver sur les crises les plus sensibles malgré leurs divergences. Il présente l'accord avec l'Iran comme la preuve que le dialogue entre alliés peut encore produire des résultats. Pour autant, Emmanuel Macron reconnaît qu'il ne croit pas que la guerre entre les États-Unis et l'Iran soit totalement terminée. Il reste beaucoup de points d'interrogation dans la nouvelle phase de négociation qui s'ouvre, mais déjà, à ses yeux, un premier bénéfice très concret.
Et donc les prix à la pompe, certains ont commencé à baisser, vont progressivement baisser. Et maintenant, il faut que ça se stabilise.
Une façon aussi de défendre l'idée que la coopération internationale reste utile et de tenter de laisser l'image d'un président qui, jusqu'au dernier mois de son mandat, entend encore peser sur les grands équilibres du monde.
Et à propos de l'Ukraine, notez que Volodymyr Zelensky parle d'une réponse justifiée aux attaques russes sur plusieurs villes ukrainiennes ces derniers jours. La région de Moscou a été en effet touchée la nuit dernière pour nous par une attaque de drones, plus d'une centaine. C'est la plus importante attaque de ce type depuis 2 ans. Une raffinerie de pétrole, un immeuble d'habitation et un centre commercial ont été touchés. Revenons au dossier iranien. L'accord signé par Donald Trump est un premier pas, mais ce qui va se jouer maintenant, c'est le cœur du dossier. Les deux parties se sont fixées en effet 60 jours pour trouver un accord définitif sur le nucléaire iranien. C'est-à-dire que les jours qui viennent vont être particulièrement importants. Wilfried de Villers.
Ce
qu'il faut comprendre, c'est que la signature de l'accord cadre hier ouvre en fait la porte à 60 jours de négociations sur les dossiers les plus sensibles. En vue d'un accord définitif, la priorité, le nucléaire iranien, Téhéran s'engage à renoncer définitivement à l'arme nucléaire, c'est vrai. Mais que va-t-il advenir du stock d'uranium enrichi dont dispose le pays? Ces 440 kilos seront-ils détruits ou bien dilués pour un usage civil? Des contrôles internationaux pourront-ils être réalisés en Iran? Dans l'accord cadre conclu hier, Téhéran obtient d'importantes concessions américaines. Il faut désormais en définir les modalités, le calendrier de la levée des sanctions, la mise en œuvre du plan de 300 milliards de dollars pour la reconstruction et le développement économique du pays. Et l'Iran espère obtenir d'autres avantages. Sur le détroit d'Ormuz, pas question de renoncer à la mise en place d'une forme de péage, même si pour l'instant la navigation a repris librement. Ces discussions débuteront donc demain avec ce rendez-vous dans les Alpes suisses entre les deux délégations. Le vice-président J.D. Vance pourrait se rendre sur place, même s'il laisse encore planer le doute.
L'actualité en métropole avec cette information concernant l'affaire Liana. L'autopsie pratiquée sur le corps de la fillette de 11 ans a révélé qu'elle avait été violée avant d'être tuée. Rappelons que son violeur et agresseur présumé était en liberté et n'a jamais été entendu par la police alors qu'il était sous le coup de plusieurs plaintes pour agression sexuelle. Et puis les aveux glaçants d'un adolescent de 15 ans. Il a été interpellé au Gros-du-Roi après avoir tué une femme de 86 ans dans un camping. Il a reconnu les faits lors de sa garde à vue. Ce qui effraie, c'est que c'est un crime apparemment totalement gratuit. A expliqué la procureure de la République de Nîmes, Cécile Janzac.
Il exposait avoir eu ce besoin viscéral de faire mal en raison d'un ressenti d'une profonde injustice à son encontre dans le milieu familial notamment. Les parents, étayants et sensibles à ses difficultés, avaient vainement tenté de trouver psychologue ou psychiatre pour le soutenir en cette période délicate. Il était présenté comme un bon élève, un garçon sans histoire, entouré de ses parents et de bons copains. Il est totalement inconnu des services de police et de gendarmerie, de même que de la justice. Aucun lien n'existe entre lui et la victime, qui a été choisie au hasard de son projet d'agression.
Et ce jeune homme de 15 ans a été mis en examen pour assassinat et placé en détention provisoire. Après la séquence diplomatique dont on vient de parler, Emmanuel Macron s'est rendu au salon VivaTech la nuit dernière pour nous. C'est le grand rendez-vous du monde de la tech. Il se réunit à Porte de Versailles à Paris jusqu'à dimanche. Et les stars cette année sont les robots et l'intelligence artificielle. Aurélien Fleurot.
Presque pas une allée sans un robot de toutes les tailles, des humanoïdes qui dansent, qui combattent, des robots chiens et puis des habitués comme Miroki, le robot made in France, qui a bien évolué, boosté à l'IA de Google et désormais certifié, un compagnon aux usages multiples, explique Blaise de Préville, directeur commercial d'Enchanted Tools.
C'est des robots qui, par exemple, vont pouvoir accompagner des enfants dans la salle de radiothérapie et réduire leur anxiété. Les placements d'objets arrivent de manière autonome bientôt, dans des hôpitaux, dans des EHPAD, dans des magasins, dans des aéroports.
Autre pépite française, HABS, qui s'est associé aux spécialistes chinois des robots Unitri pour une démo bluffante grâce à leur IA qui permet de décrypter les ondes cérébrales. Olivier Lecuffier, son président.
Là, ce que l'on fait, c'est qu'on demande à la personne de penser soit une personne qu'elle aime, soit de penser une musique qu'elle aime. On décrypte en fait ses flux de pensée et le robot refait exactement ce que la personne vient de penser. Donc soit il montre la carte du cœur ou la carte liée à la musique et il se met à danser.
Avec 97% de réussite jusque-là et une version totalement sécurisée pourrait même arriver dans des usines, il suffira de penser à une action pour guider le robot ouvrier.
8 startups calédoniennes, vous le savez, participent à ce salon. Parmi elles, MobuPay, un concept mis au point il y a 4 ans par 3 frères, dont Syriac. Il va proposer dès le mois prochain des solutions de paiement à tous les commerçants de Nouvelle-Calédonie.
En Nouvelle-Calédonie, on propose un service qui n'existait pas à destination des plateformes multimarchands. On avait un besoin pour une solution de paiement pour notre activité qui n'existait pas, donc on l'a créé. Et on s'est rendu compte aussi qu'il y avait d'autres acteurs qui avaient les mêmes besoins que nous. Et on a décidé de créer MobuPay pour répondre à ces besoins-là. Alors ça fait 4 ans qu'on réfléchit au projet. On essaie de le construire, mais c'est pas évident. Il y a eu les émeutes qui n'ont pas aidé. Et ça fait un an que la société est créée. On a trouvé un partenaire pour développer la société. Et là, on est en phase de commercialisation à partir du mois prochain. Ça répond tout à fait vraiment à un besoin. La digitalisation de l'économie en Nouvelle-Calédonie qui est en train de progresser. On répond aux besoins de ces commerçants-là qui sont en recherche d'une solution de paiement adaptée à leurs besoins, pas chère, et avec plein de fonctionnalités que ne proposent pas les solutions locales.
Des propos recueillis par notre correspondante à Paris, Xavier Robert. 11h et bientôt 55 minutes, l'heure d'une dernière pause avant l'actualité sportive. Nous ferons évidemment le point sur le mondial, mais aussi sur la Corail 600, la course à la voile qui a lieu en ce moment en Calédonie.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Ce samedi 20 juin, Nouméa célèbre la fête de la musique. De 14h à 22h, la musique résonne dans la ville avec des concerts gratuits dans plusieurs lieux emblématiques.
Dès 14h, rendez-vous au kiosque à musique et au parc de la Polyclinique.
À 15h, le parc urbain de Sainte-Marie entre dans le rythme.
À partir de 16h, les 4 scènes de la place des Cocotiers s'animent jusqu'en soirée.
Et dès 17h, laissez-vous porter par les chorales à la cathédrale Saint-Joseph.
Retrouvez le programme sur www.nouméa.nc et sur la page Facebook Nouméa Ma Ville.
Ville de Nouméa, partageons l'événement.
Vous rêvez d'une nouvelle cuisine? DCSM vous propose des cuisines à votre style, adaptées à votre intérieur. DCSM, c'est des cuisines de qualité pour tous les budgets.
Venez découvrir votre future cuisine dans notre showroom 5 route de la BD Dame à Ducos. Profitez-en. DCSM réouvre le samedi matin de 8h à 11h.
Tout le sport en 3 lettres. RRB.
La fin de votre journal Le Sport avec bien entendu la Coupe du Monde avec Jean-François Baudin.
Les pages spéciales Coupe du Monde de football avec Azur Piscine et Outdoor. Un salon de jardin à l'ombre d'une pergola pour le coup d'envoi, une piscine pour se rafraîchir à la mi-temps et un canapé compressé confortable jusqu'au tir au but. Tout est chez Azur Piscine et Outdoor.
La première journée de la phase de groupe de la Coupe du Monde s'est terminée hier, mais pas le temps de souffler, puisque dès aujourd'hui, la deuxième journée a commencé, avec des matchs dans les groupes A et B, Léo Fichou.
Oui, dans le groupe B, d'abord la Suisse et le Canada prennent la tête. La Suisse a largement dominé la Bosnie, 4-1, grâce notamment à un doublé de Johan Manzambi. Le Canada, de son côté, jouait à domicile à Vancouver, a écrasé le Qatar 6-0. Jonathan David a inscrit un triplé. Les deux équipes sont donc qualifiées pour les 16e de finale. Canada et Suisse s'affronteront lors de la dernière journée, un match qui sera décisif puisque le vainqueur terminera en tête du groupe. Dans le groupe A maintenant, la République tchèque et l'Afrique du Sud ont fait match nul, un but partout. Le Mexique, l'un des trois pays hôtes de la compétition, et la Corée du Sud s'affronteront dans quelques minutes, coup d'envoi à midi. Et puis du côté de l'équipe de France, les Bleus préparent déjà leur prochain rendez-vous, ce sera à 6h contre l'Irak. Ils se sont entraînés ce matin, 4 joueurs étaient absents, Théo Hernandez, Dayo Upamecano, William Saliba et enfin Malo Gusto qui a été légèrement touché. C'était lors de l'opposition interne hier. Le défenseur de Chelsea était en conférence de presse ces dernières heures. Il s'est voulu rassurant quant à sa blessure.
Tout va bien, j'ai juste pris un petit coup, une petite semelle de Lucas. Je vais faire un peu de soin aujourd'hui. C'est juste un petit hématome, donc ça devrait aller. Il y a de la concurrence un peu partout. On sait qu'on a un groupe de très très grande qualité, donc je pense que la concurrence elle est importante. Moi voilà, aujourd'hui je sais que c'est Jules qui commence. Je suis là pour jouer aussi, je suis venu pour ça. Donc après, le coach fera ses choix, bien sûr, mais je me tiendrai prêt quoi qu'il arrive. Je donnerai bien sûr tout pour le maillot dès que je serai sur le terrain.
France-Irak, c'est donc à suivre mardi dès 6h, heure de Nouméa. Et en attendant, je rappelle que le Mexique affronte la Corée du Sud à midi.
Un match de Coupe du Monde, c'est une fête. Et chez Azur Piscine Outdoor, on vous aide à la célébrer en famille. Un barbecue qui grésille, les enfants qui s'amusent dans le trampoline et vous qui suivez les matchs sous votre pergola ou les pieds dans l'eau de votre piscine. Tout est chez Azur Piscine Outdoor. 46 42 42.
Le reste de l'actualité sportive, avec du golf. L'US Open a débuté cette nuit pour nous. C'est l'un des quatre majeurs de la saison. Le premier tour est en cours et pour l'instant, c'est l'Américain Wyndham Clark qui est en tête avec une carte de moins 6. Les Français Adrien Sadier et Hugo Cousseau, les deux seuls représentants tricolores, sont respectivement 48e et 124e. Le premier tour a été interrompu par la pluie. Il reprendra donc demain avant le deuxième tour. Et puis du cyclisme sur la scène internationale. Plusieurs épreuves se déroulent cette semaine. Le Tour de Suisse, celui de Slovénie ou encore le Tour de Belgique et la route d'Occitanie.
Oui, des épreuves à étapes qui servent de répétition générale avant les grands rendez-vous de l'été, notamment le Tour de France qui aura lieu du 4 au 26 juillet. Et un Français a brillé cette nuit. Romain Grégoire a remporté la deuxième étape du Tour de Suisse. Présent au sein d'une échappée de 14 coureurs, le cycliste de la Groupama FDJ s'est imposé au sprint et au général, pas de changement. Tadej Pogacar est toujours largement en tête.
Et puis on va terminer cette page au sport et ce journal avec de la voile. La Corail 600, après 48 heures de navigation, les premiers équipages ont contourné Walpole, le point le plus au sud de la course.
Pour rappel, après la modification de parcours suite aux mauvaises conditions météo, les six équipages ont d'abord contourné le sud de la Grande Terre avant de faire le tour de l'Ifou, direction Walpole donc. Et c'est Pulpito, skippé par David Tréguier, qui a passé Walpole en tête avec quelques minutes d'avance sur BNC Mainette Léon du duo Michel Quintin et Yann Rigal. Guilty Pleasure et Puro Speed Marine, skippé par Alex Ruiz, est troisième. Écoutez Yann Rigal ce matin à l'approche de Walpole.
Et voilà les cosmonautes, on a sorti l'attirail de guerre
parce que c'était chaud. Et là, on voit Walpole. Le soleil vient de se lever. C'est hyper shifty. Ça passe de 7 nœuds à 27 nœuds. Il y a des bascules de 50 degrés. Un coup, on est bien. Un coup, on est à la ramasse. Et ouais, finalement, on doit pas trop mal s'en sortir parce que Pulpito est juste au-dessus. Et on a vu que Trin Marine était un peu plus bas. Donc, la route est longue.
Les trois autres équipages, Xanax, Bessier Brer Fox et Team Groupama Serendipity, sont actuellement entre Marais et Walpole.
Merci Léo, il est midi, c'est la fin de ce journal, mais dans un instant vous allez retrouver le magazine Transparence. Je vous rappelle que cette semaine Elisabeth Noir reçoit Johan Unto Wemitan, tête de liste Kanaki pour tous pour les élections provinciales en province sud.